Shalom à tous. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Vous êtes à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazé. Message Vie d'Alliance, c'est une chaîne de prédication traitant tous les meilleurs sujets pour affermir votre foi. Avec l'évêque Alexandre Amazé, nous traitons aujourd'hui le terme suivant.
Le caractère, la priorité de Dieu. Il y a deux dimanches, nous avons enseigné sur ce thème. C'est un thème important. Chaque jour, Dieu me permet de comprendre pourquoi le caractère est sa priorité. Nous avons vu Genèse 1, verset 26. La Bible dit, « Et Dieu fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. » Est-ce qu'on peut répéter, « Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. » Nous avons expliqué que, quand tu observes ce verset, « Dieu fit l'homme. » L'élément nouveau ici n'est pas l'homme, c'est l'image et la ressemblance. Donc, l'homme est créé. La première chose que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la domination, c'est son image et sa ressemblance. C'est l'héritage numéro un que l'homme reçoit après qu'il soit fait. Et j'ai dit, quand vous observez le verset, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. Donc, cette phrase implique que Dieu avait déjà une notion de ce que c'est que l'homme. Mais, il fallait tout simplement ajouter à cet homme que nous connaissons notre image et notre ressemblance. Maintenant, j'ai posé la question, pourquoi Dieu crée l'homme? Et la première chose qu'il juge bon de donner à l'homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la domination, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est son image et sa ressemblance. Nous avons défini ensemble ce que c'est que le caractère. Dans le dictionnaire, le caractère se définit comme suit. Ensemble de traits physiques, psychiques et moraux. Ensemble de traits physiques, ce qui est visible et extérieur. Ensemble de traits psychiques et moraux, ce qui est invisible. Et lorsque nous voyons ce que Dieu dit, il dit faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Il dit deux choses. Il dit donnons à l'homme notre image et notre ressemblance. Quand il dit donnons à l'homme notre image, il parle ici, le mot image a à voir avec ce qui est extérieur. La ressemblance n'est pas toujours visible parce que quelqu'un peut te ressembler parce qu'on peut dire il parle comme toi ou il a des tics que tu as. Donc la ressemblance est plus invisible. Donc image. Visible, ressemblance, invisible. Donc Dieu donne deux choses à l'homme. Son image, aspect visible. Sa ressemblance, aspect intérieur, invisible. Maintenant, lorsqu'on prend la définition du mot caractère, on se rend compte que ces deux éléments apparaissent dans traits physiques. Image, psychique et moraux, invisible, ressemblance. Donc en d'autres termes, en donnant sa nature, son image et sa ressemblance à l'homme, ce qu'il donne à l'homme, c'est son caractère. Dis caractère. Dis avec conviction caractère. Donc Dieu donne son caractère à l'homme. Ça, c'est l'héritage numéro un que l'homme reçoit. Dieu donne. Maintenant, pourquoi Dieu met en priorité le caractère? Parce que vous voyez, on ne sert pas un homme, on sert Dieu. Et quand Dieu met quelque chose en priorité, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ça, c'est la priorité. Mais qu'est-ce que l'Église aujourd'hui a fait? C'est que l'Église a renversé les priorités et a mis autre chose en priorité que la priorité de Dieu. Et qu'est-ce que nous on privilégie dans nos églises? Oh, il faut prospérer, il faut avoir l'argent, il faut faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas régner, la domination. On dit Amen, ça crie les gens. Donc, on a renversé les priorités de Dieu. Mais vous voyez, quel que soit ce que tu peux faire, Dieu reste vrai et tous les hommes faux. Dites Amen. Voilà pourquoi il est important pour nous de réfléchir et de comprendre la raison et les vraies raisons pour lesquelles Dieu n'a pas donné à l'homme autre chose d'abord que son caractère. La première raison que nous avons expliquée, c'est que Dieu sait qu'aucun homme ne peut manifester quelque chose ou révéler quelque chose s'il n'a la nature de la chose. Parce que la raison même de la création de l'homme, c'était quoi? Dieu nous a créés pour le révéler. Dieu nous a créés pour qu'on puisse exprimer sa nature, pour qu'on puisse le glorifier. Est-ce que vous pouvez dire amen? Maintenant, si l'homme a été créé pour révéler Dieu, Dieu est conscient que aucun homme ne peut révéler ou manifester une chose sans avoir la nature de la chose. Première raison. Donc Dieu donne d'abord à l'homme sa nature, sachant que sans celle-là, la raison même de la création ne sera pas. Tu es créé pour révéler Dieu. Tu ne peux pas révéler une chose sans avoir la nature de la chose. Donc, Dieu donne d'abord sa nature, son caractère à l'homme, comme élément premier. Maintenant, j'ai expliqué que quand tu lis le verset, il dit quoi? Il dit, par exemple, dans le verset, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais, vous voyez, ce verset-là est un verset, moi-même, c'est, il n'y a pas longtemps, en étudiant, que Dieu a attiré mon attention encore. Pour comprendre et voir que, en réalité, Dieu a donné son image et sa ressemblance, sa nature à l'homme. Ma soeur, on ne dort pas à l'église. Il y a une soeur qui dort là. Il faut te réveiller. On vient à l'église, on ne dort pas. Il faut dormir à la maison. Ici, c'est pour écouter la parole. Amen. Tu es transformé. Est-ce qu'on peut dire amen? Satan n'aime pas quand les gens entendent les choses. Donc, mets un petit sommeil. Alléluia. Donc, vous voyez, dans ce verset, il dit, il donne son image et sa ressemblance afin qu'il domine. Mais ouais, le mot « afin qu'il domine » est une conséquence. En fait, Dieu ne donne même pas la domination à l'homme. Il donne l'image et la ressemblance. Et conséquence de quelqu'un qui reçoit l'image et la ressemblance, il va dominer. Donc vous allez comprendre que l'Église n'a pas la vraie domination parce que l'Église n'a pas compris que l'essentiel, c'est le caractère de Dieu. Donc, une Église qui ne s'évertue pas à mettre en priorité ce que Dieu a mis en priorité n'arrivera jamais à la domination. Et qu'est-ce que nous, les pasteurs en général, on a enseigné aux chrétiens, tu vas dominer, tu vas réussir, mais c'est une conséquence. Quelqu'un a mauvais caractère, on lui dit non, je vais t'enseigner les principes du succès, tu vas réussir. C'est faux. C'est faux. C'est carrément faux. Dieu dit, je vais vous donner mon image afin que vous ayez la domination. Donc la vraie domination, selon la Bible, vient d'abord quand on accepte de ressembler à Jésus. Et je comprends pourquoi l'Église est comme ça, parce que l'Église ne domine pas, parce que l'Église ne ressemble à personne. Elle ressemble à autre chose que Jésus. Dis amen. On n'a même pas, ça dit ça, c'est des rappels. Hein. Deuxième raison, on a donné ça, c'est des vieux messages que je vous donne, pour ceux qui sont là maintenant. Deuxième raison, on avait dit quoi? C'est un principe qu'on a énoncé, et Salomon l'a paraphrasé lorsqu'il a dit, il dit, c'est ce qui est premier qui sera dernier. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. J'ai dit que c'est ce qui est sorti de Dieu qui a la capacité de rentrer en lui. Ça veut dire, si tu ne te débrouilles pas pour que Dieu se reproduise en toi, tu ne pourras pas retourner vers Dieu. C'est une disqualification. Mon frère, c'est sérieux. Hein? Tu t'amuses à ne pas ressembler à Jésus. Parce que les gens pensent que avoir le caractère de Dieu est une option. Ce n'est pas une option. Regarde les chrétiens, tu les rencontres. Même le diable est gentil. Oh mon, ça fait pitié. Pouf. Il y a des choses, ça dit que les chrétiens sont méchants, mauvais, hypocrites. Tous qu'on ne doit pas être, c'est ce qu'ils sont. Et ils s'en foutent. On dit, mon frère, il dit non, moi laisse-moi comme ça, Dieu va me changer. Frère, il y a des choses que Dieu ne fera plus parce qu'il a déjà fait ça. C'est à toi de comprendre. Si tu ne laisses pas Dieu se reproduire en toi, mon frère, tu n'auras pas le visa d'accès au ciel. Je te dis, regarde-moi aujourd'hui, je suis honnête avec toi, je suis ton pasteur, tu vas aller droit en enfer. Parce que quand tu vas arriver à la porte, il y a un visa. Visa là, c'est caractère. Jésus a dit aux gens, on a fait miracle, on a fait des trucs. Il dit, oui, je suis d'accord, tu as fait, mais toi, je ne te connais pas. Mais le mot connaître ici, là, c'est, je n'arrive pas à m'identifier à vous. Quand je me regarde, il n'y a pas de conformité. Donc, ce n'est pas une affaire de tu as fait. Je vous ai dit, on est sauvé pour devenir et non pas pour faire. Faire la vie après. Tu peux faire quoi même pour Dieu? Rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais finalement, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, Dieu dit, c'est lui qui fait tout. Mais finalement, il commence et il termine. C'est vrai, hein? Amusons pas. Tout ce qu'on fait là, c'est lui qui est dedans et puis il fait. Il est le patron de son œuvre. C'est pourquoi ce qui est à part là, il faut faire. Dis Amen. On continue. On va gagner du temps. On va finir avec les points et puis on va continuer. Troisième point, on avait dit quoi? Que Dieu a décidé de donner son caractère à l'homme pour le protéger. J'ai expliqué, j'ai donné l'exemple de l'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est un animal qui est puissant, qui vole dans les airs et qui a un certain nombre d'attributs. Il vole haut, il voit très loin, il fait un certain nombre de choses. Mais en fait, toutes ces choses-là sont liées à sa nature. Si tu enlèves la nature de l'aigle, tu prends la nature d'une souris, tu mets dans la nature de l'aigle, l'aigle ne pourra plus voler, il va chercher des trous. Vous comprenez? Mais l'aigle, si l'aigle, on enlève la nature de l'aigle et on met la nature d'une souris dans l'aigle, l'aigle sera une victime dans son environnement. Parce que la nature que Dieu lui a donnée, c'est afin de survivre dans son environnement. Qui dit, quelqu'un peut pas dire amen? Et vous comprenez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu donc a résolu et a regardé autour de lui. Il n'a pas trouvé autre nature à donner à l'homme si ce n'est sa propre nature. Pourquoi? L'homme est venu dans une situation d'adversité. Et dans cette situation-là, c'était Dieu qui était en conflit. Et le conflit que Dieu a eu, il a eu la victoire. Et ses adversaires ont dit, nous, c'est vrai, tu nous as vaincus, mais les gens que tu as envoyés là, eux, ils ne passeront pas. Donc Dieu s'est dit, ben, si je libère mes enfants dans un tel environnement, sans leur donner ce qui m'a donné la capacité d'avoir le dessus, je les livre. Donc en donnant sa nature à l'homme, Dieu veut simplement le protéger. Frère, ne joue pas avec. Est-ce que tu sais que si tu ne grandis pas en piété, il y a des pièges qui vont te prendre devant. La Bible dit aime ton frère. Si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu, il y a des pièges qui vont te prendre devant. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de devenir un chrétien et de manifester le caractère de Christ, chaque caractère est destiné à avorter un piège. Reste comme tu es, tu vas voir si tu vas t'en sortir. Tu n'iras pas. Tu t'en sortiras pas. Et tu sais, quand tu comprends ça, tu fais pas d'effort. Parce que tu vois, les gens, ils pensent que c'est négociable. Ce n'est pas négociable. Et là, tu n'es pas changé, tu es nerveux, tu es dur, tu es tout ce que Jésus... Tu es le contraire. Oui. Tu passeras pas. Non. Frère, le monde va te décevoir. Tout va te décevoir. Et Jésus ne change pas. Hein? Il est assis sur son trône. C'est toi qui vas lutter, tu vas parler. Mais quand tu parles, et ça, Dieu, il est au ciel. À la limite, s'il ferme la fenêtre du ciel, là, il ne t'entend même plus. Tu parles, toi seul, ça tape ton plafond, ça descend sur ta propre tête, tu as mal à la tête le soir. Dis à ton frère, change. Ah oui, quand Dieu te demande d'être un modèle, d'être un bon chrétien, parce que, vous voyez, sincèrement, moi, ça me fait de la peine. Quand je vois les gens sans comportement, les chrétiens, non, infidèles, méchants, mauvais, critiqueurs, orgueilleux, tout sauf ce qui est écrit dans la Bible. Bon, alors notre message de ce matin. Oh, que Dieu soit loué. On continue. Le caractère, la priorité de Dieu. Deuxième partie. Dieu salue tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Vous savez, on est bloqué. Les gens nous suivent jusqu'à notre capacité de réception sous bloc. C'est-à-dire, on a autant. C'est-à-dire, bon, je vous assure, Dieu nous a fait grâce. On a une église virtuelle. Il y a des gens qui te suivent matin, midi, soir, qui sont nombreux. Ils rentrent jusqu'à il n'y a plus de place pour entrer. Ils disent, ils envoient un message. On est en train de prier Dieu pour changer le système. Matthieu 6, verset 38 à 42. Tu peux me lire? Matthieu 6, 38 à 42.
Matthieu 6, 28.
38.
Arrête à 38.
Lis-moi à partir du verset 28, je vois.
Et pourquoi vous inquiétez?
Voilà, vas-y.
Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs.
Oui.
Ils ne travaillent ni ne filent.
Mm-hmm.
Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Oui.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Oui.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Merci. Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce qu'on peut dire toutes ces choses vous seront données par-dessus tout? Merci. Assieds-toi. Vous savez, donc, quand on examine la parole de Dieu, on se rend compte d'une chose, c'est que les priorités de Dieu, en réalité, établissent un certain nombre de principes imposés, bien sûr, à sa création pour permettre à chaque élément créé de maximiser son potentiel. Je m'explique. Nous parlons de priorité de Dieu, la priorité de Dieu, le caractère, la priorité. Quand Dieu établit quelque chose comme une priorité, faites attention. Il y a un principe qui est caché derrière. Parce que le principe est têtu, le principe suit toujours un ordre, et dans le principe, il y a toujours une priorité. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais quand Dieu donc dit, c'est ça en premier, faut pas t'amuser à aller faire ça en deuxième. Tu vas violer le principe. Oui, tu vois, exemple. Un enfant qui naît, il commence pas par manger foutou. Il commence par prendre soit le lait maternel, ensuite même avant d'aller, bon, ou bien le, dans tous les cas le lait, avant d'arriver à la nourriture solide. Mais quand le médecin te dit, lait maternel ou lait, je sais pas de quoi, il faut pas dire non. Moi, dans tous les cas, c'est mon fils, c'est mon bébé, je commence par du foutu banane ou foutu nyam, un sauce gombo. Tu vas tuer l'enfant. Alléluia. Parce que il y a un ordre des choses. Et donc, quand Dieu établit une priorité, la priorité là est la priorité. On doit commencer par là. On ne peut pas sauter pour aller commencer par deuxième étape, troisième étape. Si tu fais ça, tu violes le principe caché derrière le commandement qu'il veut te donner. Et chaque principe que Dieu établit, c'est pour permettre à sa création de maximiser dans son potentiel et de donner un meilleur rendement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, un enfant qui mange normalement, qui suit les lois ou les règles établies par le médecin, il grandit, il est en bonne santé, on n'a pas besoin de faire des jeûnes et prières inutiles. Alléluia. C'est la même chose. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'Église veut sauter les étapes et donc renverse les priorités. Mais en renversant les priorités, elle viole des lois. Et en violant les lois, là où il devait avoir croissance, il y a décroissance. Là où il devait avoir bénédiction, il y a malédiction. Là où il devait avoir élévation, il y a rabaissement. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vas voir plusieurs chrétiens assis dans les églises, 20 ans, 30 ans de conversion. Leur vie est bizarre. Ils n'ont que leurs années de conversion comme comme élément de décoration. Trophée, j'ai 30 ans de conversion. Au petit, on est dedans il y a longtemps. Mais en réalité, il est dedans il y a longtemps là. Quand tu le regardes, il est vraiment dedans il y a longtemps. Alléluia. Parce que là où les priorités sont déréglées, les résultats escomptés ne sont pas. Et ta vie donc est mélangée. Et si tu es là ce matin, ta vie est mélangée. Il faut revoir les priorités dans ta vie. Parce que les priorités établissent des règles. Et quand les règles sont mélangées, le principe est violé. Les choses marchent à l'envers. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas sorcier. Tu as violé des principes. Voilà pourquoi les choses sont tournées, se sont retournées. Et là où tu attends la bénédiction, c'est la malédiction. Là où tu attends l'argent, c'est rien qui entre. C'est tout simple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le monde nous regarde. Le monde n'a pas envie de nous ressembler. Pourquoi? Parce que, bon, vraiment, on dit que c'est des enfants de Dieu. Ok. Frère, l'église s'est aujourd'hui établie en donneur de leçons. Mais attendez, vous avez vu quel donneur de leçons qui n'est pas lui-même un exemple? Qui va t'écouter? Alors que quand tu vois l'église aujourd'hui, l'église a tendance à faire quoi? Oui, nous sommes l'église. Vous, vous êtes le monde. Vous, les païens là. Mais quand ils nous regardent et qu'ils viennent à côté, on n'est pas des exemples. Donc, le monde se dit, bon, dans tous les cas, si c'est ça le Seigneur qui suit là, nous, ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Parce que vous devez comprendre une chose importante, c'est que si des hommes ou des gens doivent vous écouter, vous faire confiance et vous suivre, très souvent, c'est ce que tu es d'abord, ils regardent. Je te donne un exemple. Fais un exercice. Ferme tes yeux en une minute et donne-moi un seul nom. Le nom d'une seule personne pour qui tu as de l'estime ou le plus grand estime au monde. Et dis-moi pourquoi cet homme-là tu l'estimes. En une minute, vas-y. Réfléchis. Tu viens te loger dans le hasard. Quelque part dans la foule, trois personnes, tout de suite. Une seule personne, pas toi. Vraiment, c'est le modèle parfait en homme. Je n'ai pas dit de rentrer dans les anges là-bas. Et tu dis pourquoi cet homme-là, pourquoi c'est lui? Bon, je démarre. Docteur, oui. Non. Pas spirituel. Voilà. Quelqu'un, qu'il soit chrétien ou pas, quelqu'un que tu admires. Et pourquoi?
Le pasteur Amazou.
Ah bon? Et pourquoi? Quelle est la raison? Une seule raison.
Parce que il démontre certains traits que j'ai en moi-même. Je n'ai pas de limite quand je pense que les possibilités que Dieu a mises en moi sont illimitées.
Okay.
Et pasteur Amazou pense la même chose.
Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Rapidement. Oui. Je veux juste rapidement. Donne à un frère ou même à un pasteur. Oui, pasteur Anis. Qui? Tu as pensé à qui rapidement?
J'ai toujours le bishop.
Non, laissez-moi tranquille. Attrapez les gens dehors. Non. Dites-moi le nom de quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui est chrétien, en fait. Oui.
Malheureusement, c'est quelqu'un qui est chrétien.
C'est qui?
Maman Mazou, ma maman.
Oula, ça dit, où est les chrétiens, non? Attrape-moi. Bon, ok, non, je respecte les choix que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu me dises, voilà, donne le micro à Cathy. Fais passer. Ça dit quelqu'un dans le monde que ça dit si tu oui.
Moi j'admire beaucoup Mandela.
Oui.
Parce qu'il a su pardonner après tout ce qu'il a vécu.
Ok.
Et puis il est pacifique.
Par exemple ça. Vous voyez que à 80% dans cette salle, quand tu choisis un homme et tu dis voilà la raison pour laquelle j'aime cet homme, ce n'est pas souvent pour ses performances. Souvent c'est son caractère que tu cites. un trait de caractère que tu ressors. En fait, le lien que je veux faire, c'est que les gens vont t'admirer, te suivre, pas forcément à cause de tes performances, mais ton caractère. Donc, je suis en train de te montrer comment le caractère peut effacer la performance. Vous comprenez? Et tu vas voir que la plupart des gens ici vont dire, j'aime celui-là parce que, ou bien je veux, vraiment c'est mon modèle, ou bien parce qu'il y a ce point. Mais c'est des traits de caractère qu'ils vont citer. Ils ne vont pas dire non, le monsieur, il a fait comme ça, il a beaucoup d'argent. Non, non. Parce que quelqu'un peut, une année par exemple en France, il y a un joueur là, grand joueur, il s'appelle Anelka. Grand joueur respecté et tout, mais il a commis une gaffe, il a insulté l'entraîneur à un moment donné. Ça a été un sujet de scandale. Beaucoup de gens étaient tellement choqués que ça n'a pas enlevé sa valeur de bon joueur qui marque. Mais quand il marque, on acclame, mais personne n'a envie de lui ressembler. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent observer que tu as la productivité. Et reconnaître que quand tu fais quelque chose, ça marche. Mais chercher à te suivre et te ressembler, c'est plus dangereux. Alléluia. C'est pourquoi c'est un élément qui est essentiel. Et vous allez voir que quand je parle, je l'ai dit, quand je parle de caractère ici, je ne parle pas d'absence de faute ou de péché. Vous allez voir que commettre une erreur va venir. Ça dit, au fur et à mesure, quand je dis va venir, ça dit que au fur et à mesure que tu vas avancer avec Dieu, Dieu va t'aider à ne plus commettre un certain nombre d'erreurs élémentaires. Mais ce n'est pas l'élément ici. Quand je parle de caractère, je parle de quelque chose, parce que quelqu'un peut commettre une erreur et avoir bon caractère. Une bonne moralité, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Maintenant, est-ce que quelqu'un est béni? Donc, nous voyons dans la Bible que Jésus, donc, a mis l'accent sur cet élément de caractère. Notre capacité à porter du fruit. Et nous allons voir pendant ces études-là plusieurs éléments. Numéro 1, la loyauté. Tout le monde dit avec moi la loyauté. C'est un trait de caractère. La fidélité. Dis avec moi la fidélité. L'amour. La patience. La tempérance. La joie. L'endurance. Le travail. L'honnêteté. L'humilité. La piété. Et vous voyez que si on, quand on va commencer à prendre chaque élément, et que nous allons passer ces éléments au peigne fin, vous allez arriver à la compréhension de beaucoup de choses. Et ici, si on doit avoir un modèle, le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus. Dites Amen. Seigneur Jésus est notre modèle parfait. Et donc, utilisant ce modèle parfait, nous allons voir ce matin le premier trait de caractère qu'a manifesté le Seigneur Jésus. Premier trait de caractère, c'est ce que j'appelle la loyauté. Tout le monde dit avec moi la loyauté. Dis plus fort la loyauté. Le premier trait de caractère qu'a manifesté Jésus-Christ notre Seigneur, c'était un homme loyal. Par sa vie, il nous a démontré comment doit fonctionner la nouvelle création. Et vous allez voir qu'en étudiant sa vie, point avec point, nous allons donc voir comment un chrétien né de nouveau doit opérer sur le plan caractériel. Première définition de la loyauté. La loyauté se définit comme une qualité morale, dévouement envers une cause ou un individu. Ça, c'est une définition. Qualité morale. Souvent, on attribue même la fidélité et le dévouement envers une cause ou un individu. Première définition. Alléluia. Une deuxième définition importante également à ce niveau, c'est ce que je vais vous lire maintenant. C'est le respect de ce qui est exigé par les lois de l'honneur et de la fidélité. Le respect de ce qui est exigé par les lois de l'honneur et de la fidélité. Donc, ici, la Bible nous, ou cette définition nous donne deux lois. La loi de l'honneur, la loi de la fidélité. Il dit, le respect de ce qui est exigé par ces deux lois-là, quand un homme respecte ce qui est exigé par ces deux lois-là, c'est un homme loyal. Nous allons y arriver. Il y a un troisième également élément important de définition, c'est se conformer à un engagement, même face à des circonstances changeantes ou adverses. Se conformer à un engagement, même face à des circonstances changeantes ou adverses. Maintenant, vous voyez que toutes ces définitions-là, chaque définition a une particularité pour nous amener à comprendre la notion de loyauté. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, lire un certain nombre de passages pour nous amener à comprendre. Prends Jean 5, verset 19. Après Matthieu 26, verset 39. Jean 5, 19, oui. Il s'agit de notre Seigneur Jésus.
Jean 5, 19. Mm-hmm. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. »
Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Deuxième verset, Matthieu 26, verset 39. Oui.
Matthieu 26, 39. Mm-hmm. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, en lisant ces deux passages, il y a un certain nombre de traits de caractère de notre Seigneur Jésus qui apparaissent en fonction des définitions que nous avons données sur la loyauté. Numéro 1, un homme loyal, c'est un homme qui est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai oublié déjà. Qui a des qualités morales, qui est dévoué envers une cause ou un individu. C'est-à-dire, il est engagé envers une cause ou un individu. C'est un homme résolu, un homme engagé. Et lorsque nous voyons Jean que nous venons de lire, nous allons voir que Jésus, en faisant cette affirmation, nous révèle un trait de caractère qu'il a par rapport à son engagement vis-à-vis de son Père. Il dit, moi Jésus, je suis engagé vis-à-vis de cet homme que j'appelle mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que je vois le Père faire que je fais. Donc, Jésus nous révèle que dans sa marche, il a été un homme attaché au Père. Un homme engagé vis-à-vis de son Père. Un homme qui n'a jamais, c'est-à-dire entre lui et son Père, il n'a jamais eu de désynchronisation. Mais à chaque instant donné, c'est ce qu'il voit faire le Père qu'il fait. Donc Jésus, par sa déclaration, nous révèle qu'il était un homme loyal. Alléluia. Maintenant, le deuxième verset dans Matthieu, nous voyons que Jésus était dans une circonstance d'adversité, de difficulté dans le jardin de Gethsémané. Et Jésus fait cette prière et qui dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais dans tous les cas, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce qui nous renvoie ici, éventuellement, à la troisième définition qui nous dit que la loyauté, c'est quoi? Se conformer à un engagement face à des situations d'adversité ou des situations changeantes. Donc, voyez que Jésus-Christ s'est retrouvé dans une situation difficile où il y avait possibilité de dire non. Il y avait des obstacles. Ce n'était pas évident de boire la coupe. Mais Jésus a fait cette prière pour dire au Père, c'est vrai, je suis un homme loyal vis-à-vis de toi. La situation ne m'arrange pas. Les choses sont plus difficiles que je ne croyais. Mais, parce que je suis un homme de loyauté, de parole, Je fonce. Donc, face même à l'adversité, alors que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes? Numéro un, ils n'ont aucun engagement vis-à-vis d'une structure ou d'une personne. Ou leur engagement est toujours partiel. Frères et sœurs, je vais vous dire, si vous ne changez pas pour devenir des hommes de loyauté, c'est le premier point. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la loyauté est ce qui est basique. Aucun homme, aucun chrétien ne peut ressembler à Dieu, ne peut avoir accès au ciel sans tenir compte de cette vertu. L'évangile de Jésus est basé sur ça. C'est pourquoi il n'y a pas de pasteur sans loyauté. Non, 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 non. Si quelqu'un dit « sert Dieu », il n'a pas cet élément de base, il y a problème. Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire pour me convaincre? Je ne sais pas. C'est ce moment, je ne sais pas ce que tu vas dire pour me convaincre. Parce qu'à la base de tout, c'est la loyauté. Un engagement sincère vis-à-vis du peuple que Dieu t'a donné. Ce matin, si tu es là, tu es un homme changeant. Qui t'engage et tu ouvres une porte derrière. Il faut te méfier. Nous parlons de caractère. C'est des choses qui sont profondes. Ce n'est pas juste des petits trucs. Parce que vous voyez, c'est facile de dire, bon, il a menti. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est des choses qui sont profondes. Et à un moment donné, les chrétiens se sont accommodés à ça. Ils ne considèrent plus ça comme un truc qui est mauvais. Parce qu'il va te dire, moi, je n'ai pas péché. Il n'est engagé face à personne. Son engagement est partiel. Mais il dit, moi, je vis dans la sainteté. Dans tous les cas, moi je ne pêche pas. Et non, ce n'est pas ça. Mais mon frère, ça ne va pas chez toi. Tu n'es pas loyal. Jésus était un homme engagé. Aujourd'hui, on a remarqué que c'est difficile. C'est-à-dire, même dans une église, dès qu'il y a une situation d'adversité, les chrétiens prennent la fuite. C'est pourquoi dans une église, frère, j'ai dit, ce que Dieu recherche, ce n'est pas des chrétiens, il cherche des fils. Parce qu'il a dit, l'étranger ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, oui. Et donc, ce que nous recherchons, ce n'est pas faire des chrétiens. On a fait trop de chrétiens. Voilà pourquoi il y a tellement de rebelles dans la ville. Tout le monde pense que Dieu lui parle. Je vous ai dit ici que Dieu dans une église, Dieu ne parle pas à tout le monde. Il a dit à Moïse, il a dit à Josué, il dit, Josué, pour la première fois, Dieu parle à Josué. Mais après quoi? Après la mort de Moïse. Il dit, Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Josué, serviteur de Moïse. Ah, donc Josué servait Moïse, il ne servait pas Dieu. Il y a un seul serviteur de l'Éternel dans la maison de Dieu. C'est le berger. Tout le reste sont les serviteurs du berger. Ça peut te choquer. C'est la vérité. La vérité, on l'accepte et puis on la digère. Parce que vous voyez, les gens, tout le monde dit, je sais Dieu. Il y a trop de serviteurs de Dieu à qui Dieu ne parle pas. Parce que Dieu est engagé vis-à-vis de ceux qu'il appelle et qu'il établit. Oui. Tant que Moïse n'était pas mort, Dieu n'a rien à foutre à Josué. Dieu peut te parler sur les affaires de ta maison, de ce que tu vas manger et tout. Mais ça, c'est personnel. Mais affaire de la direction de l'église, c'est pas possible. Alléluia! Les gens sont déloyaux. Les gens, aujourd'hui, il y a tellement... Frère, c'est pas facile. On a passé notre temps à faire des chrétiens. Et je vous ai dit que le mot chrétien, là, moi, j'aime pas parce que c'est un mot qui est... C'est les païens qui nous ont appelés chrétiens pour la première fois. Comment vous voulez accepter que des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, définissent notre identité? Et ils nous appellent chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Donc ils viennent, ils nous voient et nous disent, vous êtes des petits Christ. Et nous on accepte, on s'appelle petit Christ. Et depuis on s'est appelé petit Christ, on est petit dans tout. Est-ce que Dieu t'appelle à être un petit Christ? Dieu t'appelle à être un grand Christ. On va à la mesure de la statue parfaite de Christ et non à la moitié de la mesure de la statue parfaite de Christ. Dieu veut faire des fils. La Bible n'a pas dit le monde attend avec un Adam de Zi la révélation des chrétiens, mais la révélation des fils. Les fils sont ceux qui sont dans la maison. Ceux qui ne fuient pas. Dès qu'il y a un truc, un, un, un truc qui fait boum quelque part. Jésus dit, c'est dur, mes pères. Non parce que je veux, ce que tu veux. Il faut développer, même dans le couple, la loyauté de l'homme vis-à-vis de sa femme, la femme vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire un engagement constant sans créer des portes de sortie. Tous les couples ont dit amen. On ne crée pas une porte de sortie derrière. Jésus était un homme engagé vis-à-vis de son père. Il était engagé, loyal vis-à-vis de son père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est très important. Hein? Le contraire de la loyauté, c'est quoi? C'est la trahison, la déloyauté. Un homme qui est son frère, qui fait du mal à son prochain, est un traître. Dit traître. Et on a beaucoup de traîtres dans l'église. Non, sincèrement, il faut qu'on change. Hein? Attends. Tes frères même, tes frères au ciel là, qui t'a dit, les gens qui sont avec toi à la maison là, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne seront pas avec toi au ciel. Tes vrais frères, les voilà qui sont là. Mais aujourd'hui, mais les gens ne considèrent même pas le frère assis à côté. Mais qui va considérer ce type là? On prie dans la même église. Le gars le voit, il fait même sa vie thérapie. Critique les frères. Il les insulte, il parle. C'est la trahison. Dis à quelqu'un, il faut que l'Église revienne à ce qui est droit. Ce point-là, nous allons le voir après. La loyauté se manifeste vis-à-vis de Dieu, numéro 1. Vis-à-vis de toi-même, numéro 2. Vis-à-vis de ton frère, numéro 3. Vis-à-vis de ta nation, numéro 4. Et nous allons voir ça en détail, mais après. Qu'est-ce que c'est que la loyauté vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la loyauté vis-à-vis de toi-même? Tu vas comprendre que si tu n'es pas loyal vis-à-vis de toi-même, là, c'est foutu. C'est foutu. Parce qu'il y a des gens qui sont... qui se trahissent. Qui sont déloyaux. Mais je te dis, qui n'ont pas de loyauté vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ils savent pas ce que... Tu ne comprends pas encore ce que je suis en train de dire, je vais t'expliquer. Et la loyauté vis-à-vis de ta nation, en quoi ça s'exprime quand tu es un enfant de Dieu? Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous faites là, il faut arrêter de faire. Il y a beaucoup de paroles que vous dites. Il y a un monsieur, je ne sais pas où il a eu mon SMS. C'est peut-être un chrétien, il m'envoie des SMS que je n'aime pas. Mais des versets, le combat de la Côte d'Ivoire, les histoires, c'est pas fini. J'ai dit, je vais lui envoyer un message. Il n'aura plus le courage de m'envoyer un SMS. Il ne sait même pas c'est qui. Parce que les gens, ils comprennent pas la Bible et ils passent leur temps à fatiguer tout le monde. Affaire de Côte d'Ivoire, c'est fini. Dis à ton frère, c'est fini. Jésus-Christ est Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui doit être dans ton esprit. Si tu as encore dans ton esprit un autre truc, faut enlever. Faut marcher. Quand tu marches avec Dieu, il faut le connaître. Moi, je vous ai dit ici un jour, apprenez à connaître Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dis avec moi, Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Lis-moi Matthieu 18, verset 20.
Matthieu 18, verset 20.
Oui.
Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus ne tient pas cette promesse jusqu'à aujourd'hui? Il tient ou il ne tient pas? Ok. Maintenant, lorsqu'on repart toujours aux définitions de la loyauté, en deuxième position, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est le respect de ce qui est exigé par la loi de l'honneur et de la fidélité. La loi de l'honneur. Et ici, c'est toute une étude, mais je vais vous donner juste un certain nombre de points. Il y a deux éléments importants que je veux que tu retiennes ici dans la loi de l'honneur. C'est-à-dire, c'est la capacité pour un homme de donner honneur ou respect à ce qui doit recevoir respect. Deuxième chose, c'est la capacité pour un homme d'avoir de la considération pour sa propre dignité. Les deux ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, ici, le verset nous dit, respect de ce qui exige la loi de l'honneur. Et Jésus, dans cette déclaration, nous montre que il a été toujours un homme d'honneur. Ce qu'il dit, il le fait. Quand il dit, je suis avec vous, là, il est là. Parce qu'à chaque fois qu'on l'invoque, il est là. Il y a 2000 ans, il est mort. Mais à chaque fois qu'on dit au nom de Jésus, les démons commencent à fuir. Et nous voyons chaque jour la manifestation de la gloire de Dieu dans l'église. S'il y a un homme ici qui dit Jésus ne tient pas parole, qu'il lève la main. Je te dis que c'est toi qui ne tiens pas parole. Jésus tient parole. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Jésus tient parole? Donc vous voyez que dans la loyauté également, il y a cette capacité de tenir parole. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'église, combien de gens qui tiennent parole, qui parlent, et la parole là ne représente rien du tout. Ils n'ont aucun respect pour leur propre dignité. Mais frère, c'est grave. Aujourd'hui, tu peux pas. Quelqu'un te dit, bon, j'arrive, mais faut oublier ça même. Il ne veut pas venir. Les gens disent, ils font promesse. Bon, écoute, je veux, pour le Seigneur, j'envoie ça. Il n'envoie jamais. Non, et puis tu sais, c'est devenu flagrant. Un jour, tu sais, fais attention. Souvent, les gens sont assis et ils pensent que, moi, je vais être honnête avec toi. J'ai demandé au responsable financier de faire un point financier de tout, parce qu'il n'y a rien ici, là. On écrit tout. Tout est, il y a des traces. Parce qu'une église, ce n'est pas le formel. Il faut tout régler. Il va vous faire les points financiers. Vous allez voir les charges, les dépenses, tout ce qu'on fait avec ce que vous donnez. Pour que chacun sache. Parce que beaucoup de gens sont assis, ils ont l'impression, oh, il y a des milliards dans l'église. Mais oui! Les gens le pensent. Donc, ils font quoi? Souvent, on dit, bon, qui veut aider l'église à faire ça? Ils vont sortir 1000. On dit, mon Dieu, le pasteur est riche, il est riche, il est riche, il est riche. Dès que la réunion finit, ils sont pleins là, dit, pasteur, vraiment, tu vois, il faut que tu m'aides. Vraiment, il faut que tu me donnes ça. Parce qu'il a vu les gens sortir. Hein. Il a fait ses calculs dans sa tête. Le pasteur avait dit un million d'euros. Ils sont 20, ça avait fait. Oh mon, le pasteur. Donc, on se voit cette semaine. Mais les 20, là, il y a un et demi qui donne. Un et demi. Les autres disparaissent. Ce n'est pas la police. Mais tu vois, là où c'est grave, c'est que les gens n'ont même plus conscience que le manque de dignité, l'incapacité de respecter sa parole là est grave. Ils savent plus ça. Ils ont perdu cette vertu. Pourtant, il y a des gens, vous savez les Japonais, les Chinois là, mais je te dis, une parole qu'ils donnent, quand ils ne peuvent pas, ils peuvent se tuer. Les Japonais, moi j'étais à Tokyo, et je suis allé un jour, je crois, avec un des frères là, il y avait une grosse bâtisse d'un samouraï. L'un des premiers samouraïs de Tokyo. Et comme on entre, les gens, les guides, ils expliquent. Mais c'est un gars qui s'est suicidé comme ça. Parce qu'il a dit aux gens avec qui il était qu'ils allaient vaincre quelque chose là. Et il y a un qui est mort dedans. Il dit, il ne peut pas accepter ça. Comment lui donne sa parole et puis il dit qu'il a préféré se tuer. Les Japonais, ça fait que le taux de suicide au Japon est très élevé parce que les gens n'aiment pas l'échec. Quand il dit quelque chose, il n'y a pas, il prend quoi, il se jette à la fenêtre et puis hop, il est mort. Mais vous voyez les films japonais là, le gars, quand il est face à la défaite, il laisse même pas l'ennemi la battre. Il prend son truc, puis il est parti. Mais aujourd'hui, dans l'église, parole d'un chrétien. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui disent, je préfère parole de païen. Ne riez pas, il faut que l'église revienne à ce qui est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. La parole donnée. Tu dis à quelqu'un demain à 16h, je viens te voir pour te remettre ça. Frère, c'est ta, quand si tu ne le fais pas, tu renies, tu te renies. Tu n'as plus de valeur. Tu ne considères pas ta propre parole. La parole, frère, la parole d'un homme, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu envoie sa parole et il tient sur sa parole. Il dit pour ma parole, je ne peux pas me renier. Il dit, je vais démontrer ma parole, je vais veiller sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Il dit, quand j'ai envoyé la parole, elle n'a pas le droit d'échouer parce que c'est moi. Je me tiens pour ma parole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas de parole. Ça veut dire qu'il se parle à lui-même et puis se blague. Quand on dit confesser sur toi, il dit, tu es prospère. Hein? Toi, tu penses que tu peux être prospère, tu es béni. Et puis, il se parle. Ça dit, tout le monde dit parole. Et quand je parle là maintenant, le Seigneur me fait voir qu'il y a plein de gens qui sont là. Ils ont au moins 20 promesses non accomplies. Ils ont mis ce placard, ils ont fermé. Il ne sait rien. Jésus dit, ce que j'ai dit, je fais jusqu'à aujourd'hui. La loyauté. Respect de l'honneur, la fidélité. Il dit ce qu'exigent les deux lois. La loi de l'honneur, la loi de la fidélité. La loi de la fidélité, c'est quoi? La fidélité, je vous ai dit ici un jour, je vous ai expliqué, c'est une affaire de nature. Un homme fidèle, c'est un homme qui est constant. C'est la capacité qu'un homme a de tenir sur les mêmes positions. Dieu est fidèle parce que Dieu ne change pas. Nous invoquons la fidélité de Dieu parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il le pense aujourd'hui, il le pensera pour toujours. Mais voilà pourquoi nous pouvons mettre notre vie sur la parole, parce que nous savons qu'il ne change pas. Mais aujourd'hui, tu peux mettre ta vie sur la parole de qui? Quelqu'un te dit, demain, pas, je te donne 2 millions. Tu vas prendre des crédits, prendre des fauteuils à crédit, prendre des télévisions à crédit, parce que quelqu'un a dit, jamais. Tu vas tout prendre, et puis le lendemain, il a disparu. Quand tu arrives, tu dis, non mon frère, tu m'as dit de venir, mais parce que tu m'as dit, j'ai dû prendre des crédits pour faire certaines choses. Non, tu vois, mon cousin devait venir, c'était sur une promesse que je t'avais donnée. En fait, l'homme, et les chrétiens en général, dis à ton frère, il faut que ça change. On va en 2012. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien à personne. Tu peux faire, tu dis, et puis tu fais. Est-ce que vous savez que si l'Église commence à opérer comme ça, ça va être surnaturel. Mais c'est à cela que le monde va nous reconnaître. Il va dire, ça, c'est des enfants de Dieu. Ce n'est pas un bavardage. Nous, on a la Bible. On est des trucs. Dieu est avec nous. Ce n'est pas ça. Dieu est avec toi. Comment? Tu as une voiture, le gars a trois voitures. L'argent, la maison, les richesses, ce n'est pas le signe que Dieu est avec un homme. Si l'argent, maison, voiture, tous ces biens-là, est signe que Dieu est avec un homme, ça veut dire que Dieu est plus avec les païens que les chrétiens. Soyons d'accord. Parce qu'il y a des païens ici à Abidjan, des marabouts même, au Sénégal, ce qu'ils ont comme richesse. Peut-être que tu n'auras jamais ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas une insulte. Donc ces choses-là ne peuvent pas être l'indice. Mais pourquoi on a caricaturé la bénédiction, nous les chrétiens, comme ces choses? Mais maintenant, comme tout le monde veut paraître béni, le gars, il fait quoi? Il contourne les lois tant qu'il peut paraître béni. On dit, béni c'est voiture, béni c'est avoir une maison, béni c'est avoir un mari. Donc mon frère, les gens n'attendent même plus Dieu pour qu'il fasse quoi que ce soit. Ils font quoi? Ils vont dans le noir, ils s'attrapent des bénédictions artificielles, ils font de la substitution. Parce que je vous dis, la substitution ne va jamais te satisfaire aujourd'hui, ne va jamais te satisfaire demain. La Bible dit que c'est les bénédictions de l'Éternel qui en... Ça veut dire quoi? Si Dieu ne t'a pas donné, que quelqu'un d'autre te donne ou que tu te donnes, ça va sembler devant les gens. Tu auras une réputation, mais tu n'auras pas un caractère. Parce qu'il y a une différence entre la réputation, ce que les gens pensent, et en réalité, toi seul, quand tu es assis, tu sais. Oh, je souffre. Donc ce n'est pas de paraître. Aller que pas, jamais attraper des trucs, même dans les cheveux, venir comme dire, on est tous bénis. Tu attrapes un truc là, tu payes des trucs, tu arrives, mais toi-même tu sais que ça, c'est pas bénédiction. Parce que ce que tu allais faire pour avoir là, c'est pas bénédiction. Toi-même, tu sais. Tu veux avoir l'argent, tu peux braquer banque, tu vas avoir l'argent. Avoir l'argent n'est pas compliqué. Tout le monde peut avoir l'argent. Il y a plein de voies pour avoir l'argent. Il y a des gens qui ont volé partout qui ont l'argent. Aujourd'hui, on ne sait pas, ils ont l'argent, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que Dieu vous demande là, c'est être royal. Quand lui te bénit là, tu es béni. Tu es béni, dis amen. Qu'est-ce qui va arriver tout de suite? Va garer une dernière Lexus, une dernière, comment on appelle, Porsche là. Toutes les soeurs. Oh! Le frère béni. Ma soeur, tu ne l'as pas vu? Il est béni, je te dis, Dieu avec lui. Tu le connais? C'est Porsche là qui est bénédiction? C'est peut-être le diable. Maintenant, après, tu te lances dedans. Après, tu es chaque fois devant le pasteur. Pasteur, tu sais, pasteur, vraiment, m'a frappé hier nuit. Pasteur, mes yeux sont gonflés. J'ai pas pu venir à l'église, pasteur. Tu n'as pas dit qu'il est béni. On ne peut pas substituer. Je vous te dis, si Dieu t'a mis là, tu ne peux pas descendre là. Je te dis, hein, c'est Dieu seul qui peut satisfaire le cœur d'un homme. Hein. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à cause de la bouche des gens à vouloir faire plaisir aux gens et à te presser pour faire des choses ou à prendre des trucs, à porter des costumes qui vont te dépasser. Mon frère, les gens, quand ça va chauffer, ils vont t'abandonner. Tu sais, c'est ça qui est bien avec les gens. C'est qu'ils vont t'encourager pour te dire, non, mon frère, tu vois, nous tous, on est là, ça marche pour nous. Et ils te poussent. Et toi, tu veux tellement, tu veux plus qu'on parle sur toi. Tu vas aller te chercher à être béni comme eux. Mais après, là, quand ça va chauffer, ils t'abandonnent. Ils vont, oh, ma soeur, vraiment, hein, que Dieu te bénisse. Après le culte, oh. Et puis, pour sa voiture, ça va. Hein. Tu vas manger, tu vas dormir, oh, comment ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais pourtant, j'étais chaud pour te dire non. Il faut, c'est très important d'avoir la parole, avoir une position. La fidélité est une affaire de nature. C'est une affaire de nature. Tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle. Et la Bible dit, les infidèles, ils s'imaginent de recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Un homme est infidèle dans sa nature. Même à un moment donné, il porte deux chaussettes gauches. Il est tellement infidèle que même les chaussettes, là, il prend rouge, même bleu. C'est-à-dire l'infidélité caractérisée. Il peut pas, c'est-à-dire ils ne sont pas constants dans quelque chose. Et de telles personnes-là, tu vois qu'il a mis tailleur, lui seul. Il dit non, j'essaie tout le monde. J'essaie tout le monde, ok. Il a 1000 coiffeurs. Il essaie tout le monde. C'est-à-dire, parce qu'il ne peut pas être avec quelqu'un pendant longtemps. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles, frère, l'Église souffre. Parce que je vous dis, le monde, là, on va les attirer vers nous. Je vous ai dit, ce n'est pas par notre performance. Hein. Ce n'est pas la performance. Ils veulent voir s'ils peuvent nous faire confiance et nous ressembler. Mais le vrai problème, c'est que si on ne fait rien, l'Église ne va pas grandir. Le royaume de Dieu ne va pas grandir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de monde dehors que dans nos églises. À Cocody, il y a près pratiquement maintenant d'un million d'habitants. On m'a dit qu'en statistique, il n'y a pas 10% de la population de Cocody qui est convertie. Il n'y a pas une église à Cocody ici qui a 5000 membres assises sur des millions de gens. Ça vous dit rien? On fait quoi? Pas là. Qu'on dit simple, hein, on ne parle pas des autres quartiers. Ça veut dire qu'on peut gagner du monde. On peut faire 4-5 cultes ici. Tous les pasteurs vont prêcher jusqu'à fatiguer. Quand c'est comme ça, moi, j'ai fini de prêcher, pour moi, je disparais. J'ai dit, les gars, attrapez les autres cultes. Mais personne ne veut payer le prix pour. Il y a tellement de gens dans la rue. Mais comment ils vont venir? Tu es leur voisin, tu es dans le quartier. Tu es l'ambassadeur là. Ils te regardent, tu habites, tu vas à l'église. Tu mets en tension chien méchant sur ta porte. Il n'y a pas chien dans la maison, c'est toi qui es le chien méchant. Non. Tous les gens dans le quartier savent que tu n'es pas gentil. Tu sais, le caractère chrétien, là, ça attire facilement. Un homme qui est chrétien, qui est dans son quartier, ses voisins, il va là-bas, il salue tout le monde, qui est bien, qui est humain, frère, ça se voit. Les gens vont rien, ils vont dire, mais le voisin à côté, là, il est vraiment bien. C'est un monsieur qui aime les gens. C'est un monsieur qui est gentil. C'est un monsieur qui... Ils vont juste dire des points. Ils vont dire, le gars qui est ici, là, c'est un diacre. Diacre, dans notre quartier, il y a diacre. Ah bon? Non, je cherche le diacre. Tu viens, tu dis non, je cherche le diacre. Attends, on dit diacre, diacre. Chez nous ici, c'est tous les musulmans. On dit ici, c'est des musulmans. On dit non, il y a diacre. Il dit non, nous ici, on est bossodis. Parce qu'ils n'ont jamais vu un gars dans le quartier qui a le comportement d'un chrétien. On dit non, c'est le frère. On dit un nom, on dit, ah bon, ils vont rien dire, ils vont dire, ah ok, allez-y. Alléluia. Parce que les gens vous regardent, ils ne lisent pas la Bible, ils vous regardent. Il y a des chrétiens, attends, tu es chrétien, il y a des chrétiens. 1er janvier ou quoi, même quand ils font fête. Je vous ai dit, janvier là, c'est un mois qui est un mois prémisse. Ils font fête, ils font la fête. Il n'y a même pas de musique chrétienne qui sort. C'est... Je te dis, 1er janvier, Dieu t'a gardé, t'a sauvé. Tu ne peux pas envoyer des pasteurs, ils vont prier, bénir Dieu, mais la musique, et on dit, mais ah, c'est qui ça? On va t'appeler pasteur dans le quartier, ce n'est pas grave. Mais, je vous dis, c'est moi prémisse. La Bible dit, tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, vous les sœurs là, on finit la prière du 31. Toi qui vas chercher garçon, toutes les bénédictions là vont revenir en arrière. Non, je te dis. Attends, c'est moi qui est prémisse. Tu finis bénédiction, tu t'en empêches. Il y a des gens, le nouvel an, 1er janvier 2012, va les trouver en train de boire bière. Et vous voulez quel avenir pour un tel type? Mais les frères, c'est la même chose. Non, je vous dis, il faut faire très attention. Hein. Respectez la fidélité dans votre comportement. Dites amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Parce que souvent, on a tellement caricaturé la volonté de Dieu qu'à un moment donné, même les grandes choses qui font partie de la nature de Dieu que Dieu nous demande de manifester, on voit. On n'a plus de tempérance. On va y arriver. On va étudier le deuxième trait. Je vois le temps déjà passé. Sur l'amour. Quand on va arriver sur l'amour, il y a des choses que tu vas comprendre que tu n'as jamais compris. Moi-même, ça a ouvert encore. Mais j'ai dit, ah bon, je croyais que l'amour était aussi simple. Si on ne devient pas comme le Seigneur, c'est foutu. Amusement, pas, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Que ton cœur soit un cœur droit. Vous allez voir que le travail également est une vertu, est un trait de caractère. On va y arriver. Et c'est là que tu vas voir que beaucoup de gens, beaucoup de paresseux vont se rendre compte qu'ils croyaient que paresse là était une affaire qu'on pouvait laisser passer. Et il est paresseux et puis il insulte les gens pour dire, mais lui c'est un pécheur lui. Mais lui c'est un pécheur, pasteur, regarde. Mais pourtant lui, il dort jusqu'à à midi. Il dit, mais lui c'est un pécheur. Très important, on va voir point après point à la lumière de la vie de notre Seigneur. Quelqu'un béni. Pourquoi Dieu insiste tant, frère, sur le fait de manifester son caractère? Vous savez, les hommes ou les organisations sont rarement détruits de l'extérieur. Je suis arrivé à une conclusion importante. C'est rare, tu vas voir un homme ou une organisation détruit de l'extérieur. C'est rare. Quand tu vois quelqu'un qui est détruit de l'extérieur, il est au niveau basique. Et Satan est passé dans l'art de détruire de l'intérieur. Et voilà l'une des raisons pour laquelle Dieu insiste sur le caractère. Parce que le caractère commence dedans. Et un homme qui ne prend pas le soin de bâtir le caractère de Dieu en lui, Satan va le détruire de inside. Parce que si je viens, je te dis, je vais t'attaquer. J'arrive demain. Tu vas te préparer. Donc souvent, c'est très difficile d'aller de vaincre un homme de l'extérieur ou une organisation. Mais tous les grands désastres dans le monde sont détruits de l'intérieur. C'est quand tu vois, c'est de l'intérieur. Que ça. L'ennemi hante. Et puis, pourrit comme ça. Pourquoi? Si on ne se construit pas, c'est dangereux. C'est comme une église. Très souvent, c'est difficile. Tu vois, une église, c'est difficile de voir quelqu'un qui a quitté dehors pour venir pour faire parler, pour dire oui, vous là, je vous casse, je casse votre. C'est difficile. Les gens, souvent, quand ils sont dedans, ils s'en foutent. Tout ce que les gens racontent, ils s'en foutent. Mais souvent, quand Satan veut détruire, il fait du coaching à l'intérieur. Quand il a coaché un, il le fait asseoir à côté de l'autre qui est un peu favorable. Ils deviennent voisins. Ils seront amis dans quelques temps. C'est une onction. L'onction est contagieuse. Quand il a coaché 3, 4, il forme son noyau. Et puis il dit, on peut attaquer de l'intérieur. Maintenant, il y a moins d'attention quand on est en interne. Maintenant, c'est de là qu'il explose. C'est pourquoi il faut veiller sur l'intérieur. Il faut enseigner certaines vertus pour amener les gens à comprendre ces choses-là afin de garder l'unité. Parce que la Bible dit, c'est à cela que l'on verra que vous êtes de Dieu. Quand les gens verront au milieu de vous de l'amour, de temps. Donc si les gens ne nous voient pas, c'est-à-dire si les gens ne voient pas un certain nombre de choses au milieu de nous, ils ne peuvent pas témoigner que nous sommes de Dieu. Il dit, c'est à cela qu'on dira que vous êtes de Dieu. Quand on aura vu au milieu de vous un certain nombre de vertus. Lis-moi le psaume 23, verset 2. Et puis Luc 22, verset 28. On va terminer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas.
Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice.
Amen. Luc 22, verset 28. Oui.
Luc 22, verset 28. Vous. Amen. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.
Amen. Il dispose du royaume en notre faveur parce qu'on a persévéré avec lui dans les épreuves. Alléluia. On a traversé ce qu'il a traversé. Nous sommes restés fermes. Ici, il y a un point important que je veux que tu saisisses. C'est qu'il dit, il nous conduit vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, les eaux paisibles ici, ça implique un certain nombre de choses. Vous voyez? Les païens là, là où il n'y a pas de calme, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de tranquillité, ils ne vont pas là-bas. Et c'est la responsabilité de l'Église de mettre, de donner ou de mettre la paix, la tranquillité, l'amour, l'union, d'amener les chrétiens à avoir de la stabilité. pour que les païens qui sont comme des brebis perdus viennent s'abreuver là-bas. On dit très souvent, les brebis n'aiment pas s'abreuver dans les eaux troubles. Parce qu'on ne sait pas s'il y a caïman là-bas. Et quand l'eau est paisible, ils viennent sans problème. Et l'Église, ayant ce visage-là, a troublé la face de l'eau. Donc, au lieu que les gens viennent s'abreuver, put, ils regardent de loin. Ils regardent de loin. Tu quoi, ça c'est l'église. Ouh, église. Il y a un dans mon quartier, même. Et puis, ils sont tous des exemples. Hein. Ils vont te dire, non, mais chez moi là-même. Ouh, chez toi c'est bon. Lui qui est à côté de moi là. Tous les vendredis, à partir de 21h, ils commencent. Ils vont crier jusqu'à... Et quand ils sortent, leurs visages sont serrés comme ça. Au moins, ils criaient, puis ils étaient gentils. Et ils finissent de crier. Mais je te dis, c'est incroyable. Moi, je suis allé l'éveiller. Les gens sortent de veille, puis ils sont en palabre dehors. Avec les païens. Non. Je le frappe, puis à la table, le frère, on dit, mon frère, le pasteur arrive. Il dit, non. Non. Moi, je n'aime pas ça. Je ne comprends pas, c'est pas... Tu fais pas la barre païen. Il dit non. Même si le gars, il parle mal. On ne comprend pas. On vient prier, puis il parle mal comme ça. On ne peut pas s'éteindre. Non, pasteur, Jésus a dit. Et puis, il va sortir un verset. C'est comme un jour, j'étais à mon bureau. Et puis, quelque chose m'a dit, sors. Je suis venu comme ça. Et je rentre là. Je vois quelqu'un qui est entré à l'église comme s'il venait demander la prière. Et il dit, cherche un pasteur. Bon, il a dû voir quelqu'un, il dit, cherche un pasteur. Et quand il a vu qu'il n'y avait personne, il a changé de route. Il est entré dans le bureau qui est là, où il y a les trucs de technique là. Et il a ramassé DVD, et puis il a mis ici. Maintenant, moi, quelque chose m'a dit, sors. Donc quand je sortais, je tombe sur lui. J'ai dit, mais mon frère, il y a quoi? J'ai dit, c'est quoi tout ça? Il dit, non, je suis venu voir un pasteur. Et tu, j'ai dit, mais tu es venu voir un pasteur? IDB dit, dans tes aisselles, tout ça, des trucs que tu as ramassé. Il dit, non, il venait ici il y a longtemps, mais il ne vient plus. Et puis, je l'ai attrapé. J'ai dit, bon, les gars, donc les frères là sont sortis. Mon Dieu, les... Et Richard, on va le finir. Mais j'ai dit, quand les gens l'ont envoyé là, le gars m'a fait pitié. J'ai dit aux gens, j'ai dit, les gars, tous les gars du quartier sont venus s'ajouter aux frères qui veulent le finir. J'ai dit aux gars, ne le touchez pas. Donc lui, il parce que les gars étaient tellement méchants que lui, ses yeux étaient sur moi. Pasteur, dis-leur, pasteur. Donc, j'ai dit, non, arrêtez. Donc, j'ai dit à tout le monde, arrêtez. Les gens, il y en a qui l'ont dit, tapez et puis. J'ai dit non. Donc, j'ai calmé tout le monde. J'ai dit, laissez le gars. On dit non, mais pasteur, tu es trop gentil. J'ai dit, récupérez le DVD, laissez-le partir. Venez, il est venu, oh merci, pasteur. Vraiment merci, je viens prier la semaine prochaine. Pasteur, il a décalé. Alléluia. Voyez, il faut... Mais en fait, les gens regardaient. Maintenant, en fonction du traitement qu'on allait donner là, ils allaient savoir parce qu'on ne peut pas être chrétien et païen en même temps. Ils voulaient avoir quelque chose qui nous démarque dans le fond. Même s'ils ont fait, il a fait du mal, ok, bon, dans tous les cas, Dieu a permis qu'on l'attrape. Bon. C'est comme un jour, j'étais assis en prière. On a fini la prière, j'étais... Un moment de décembre, je ne priais. On a fini le truc matinal. On a fini de prier, on a pris la Sainte-Cène. J'étais assis, fatigué, le temps de rentrer. Il y a quelqu'un qui a fini de prier qui dit veut me voir. Donc les gens disent non, le pasteur fatigué, tu ne peux pas le voir. Il dit je veux voir le pasteur, je vous dis je veux le voir. À un moment donné, il a commencé à menacer et j'ai suivi que les frères là ont dit non. Mais j'ai senti que si les gars ne le laissaient pas, ça n'allait pas être bon. Donc j'ai dit non, laissez-le venir. Il est venu, il dit, pasteur, merci. Puis c'est assis. Il dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de nous? J'ai dit, c'est quelle affaire d'il y a quelqu'un autour de nous? Parce qu'on peut bouger. Donc, j'ai dit, donc ce jour-là, j'ai dit, bon, je ne vais pas au bureau, je vais m'asseoir là, ici. On s'est mis quelque part dans un coin, et puis il me parle. Il dit, pasteur, je vais te faire des révélations. Venez ici. Je suis un chef de gang. Moi, je suis un tueur. Avant d'entrer ici, comme c'est une église, j'ai déposé mes armes dehors dans les herbes derrière. C'est un taxi même que j'ai braqué pour arriver. Ça va. J'étais pas serein, je dis. J'ai dit, Seigneur, pitié de moi. Il dit, je suis recherché par la PJ. Il dit, ils ont tué tous mes amis. Là, sur ma table, on va me tuer. Et moi, je veux entrer au Canada et tout comme ça. Donc, je suis venu te voir. Je dis, mon ami, moi, je ne veux pas entrer dans toutes ces histoires. On va prier pour toi. Jésus va entrer dans ton cœur. Je lui ai parlé de. Je lui ai annoncé l'évangile. Il est resté calme. Il dit, c'est la première fois qu'il est aussi calme. Et que les gens ont failli l'énerver derrière la main. Mais là, il est très calme. Je ne sais même pas s'il est mort maintenant. Parce qu'il m'a dit, lui, il sait que ça ne va pas durer. Donc, je parle avec lui, je donne des conseils. Je lui ai dit, il faut que. Il m'a dit, non, lui, il n'a pas mangé depuis parce qu'il se cache. Donc, il veut juste manger. Il dit, ok, je vais te remettre l'argent, tu vas, tu manges. Mais moi, je pense qu'il faut aller voir les gens. Il faut peut-être te prendre la justice, c'est mieux. Il m'a parlé, il m'a dit, bon, dans tous les cas, laisse-moi parler. Il a pris l'argent, puis il est parti. Et lui, il s'en va au Canada. Tu vois comment c'est pas évident? Il faut avoir un bon caractère. Parce qu'en fait, les gens, ils vous voient. Ils vous voient dans les rues. Le bienfait, là, c'est pas perdu. Tu fais du bien, tu es un bon chrétien, tu fais ta vie. Un jour, je te dis, c'est l'imam même qui a te défendre. Les gens vont vouloir t'attaquer. L'imam va dire, non, lui, là, c'est une bonne personne. Il ne faut pas être arrogant. Je vous dis, vous êtes des chrétiens. Je vous dis, le caractère que Dieu vous donne, c'est pour vous protéger. Si vous ne comprenez pas que, quand Dieu te dit d'être bon avec les gens, de marcher dans l'amour, de faire du bien.
Merci d'être resté à l'écoute. Si vous êtes béni, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes. 09 13 22 75 06 29 35 46 Alliance Biblique m@gmail.com www.abmci.net Que Dieu vous bénisse.